Bien, alors nous allons pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première séance du séminaire Flaubert 2024 consacré pour la deuxième année consécutive au thème de la famille. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Héloïse Bidegory, qui est doctorante à la Sorbonne sous la direction de Didier Philippot. Son projet de thèse s'intitule Flaubert et le régime des passions, affectivité et sensibilité à l'ère du soupçon. Elle s'intéresse au courant affectif et passionnel présent dans l'œuvre, malgré l'ironie qui fait peser sur eux le soupçon d'inauthenticité, et cherche à éclairer la philosophie et l'esthétique des passions qui sous-tendent l'écriture flaubertienne. Elle va donc nous parler des affects familiaux aujourd'hui et sa communication a pour titre Écrire et penser la norme affective familiale avec Flaubert et je lui laisse la parole.
Merci beaucoup, Juliette. Et avant toute chose, je voudrais commencer par remercier Juliette Azoulay et Florence Pellegrini pour l'organisation de ce séminaire et pour l'invitation. Alors, dans son article sur le lien entre Flaubert et Rousseau, Gisèle Stejinger a évoqué une composante essentielle de la conception flaubertienne de l'affectivité, son appréhension comme fait culturel. De fait, dans l'éducation sentimentale sur laquelle elle s'appuie, il est frappant de voir à quel point tous les faits politiques et individuels sont marqués par la tendance de l'époque au sentimentalisme, ce que Flaubert appelle le sentimentalisme, et l'on peut repérer, ça et là, dans la chair du texte, les ébauches d'une réflexion sur son origine à la fois sociale et culturelle. L'ironie qui porte sur les manifestations de ce sentimentalisme exerce dès lors une fonction d'exhibition de ce qui, dans le sentiment, relève de la construction socioculturelle. En élargissant cette analyse à l'ensemble de l'œuvre de Flaubert, plusieurs constats s'imposent. D'abord, il semble que toutes les formes d'affectivité, et pas seulement l'affectivité érotique et l'affectivité politique, soient caractérisées par ce paramètre culturel qui les détermine à la fois dans leur expression, par le biais du cliché qui est la forme concrète chez Flaubert de la norme telle qu'elle s'exprime en phrases, déjà dites et répétées à l'infini, et à la fois dans leur expérience intime, puisqu'on ne ressent même à l'intérieur de soi qu'à partir de ce qui nous détermine culturellement. On ressent en rêve, en image, en mots, l'émotion n'ayant pas chez Flaubert d'existence hors la forme. L'affect semble donc chez Flaubert toujours lié à une norme, en tant qu'il est toujours répétition d'un modèle formé par un ensemble de discours convergents, issus des produits culturels en circulation et des principes normatifs et moraux qui régulent la société. Une triade se dessine donc, qui semble indissoluble dans l'œuvre de Flaubert, la triade émotion-langage-norme, qu'on peut sans doute résoudre en une seule entité, le cliché. C'est-à-dire l'expression d'un sentiment sous la forme d'une entité langagière stéréotypée qui reflète une donnée sociétale ou culturelle. Un tel constat en entraîne un autre. Concevoir ainsi les émotions comme répercussion à l'individu d'une culture affective semble orienter l'interprétation des représentations qui en sont faites vers une posture intégralement démystifiante. Tout ce que les personnages ressentent et disent ressentir relèverait nécessairement de la répétition et en cela serait à appréhender sous l'angle de l'inauthenticité. Notre posture de lecteur est de fait en grande partie conditionnée par l'usage massif des procédés ironiques qui nous invitent constamment à voir derrière l'expression de l'affectivité ce que cette affectivité est vraiment, à savoir un cliché. L'étude de l'affectivité familiale qui nous intéresse aujourd'hui est évidemment alliée à cette posture imposée en quelque sorte par Flaubert. De même que l'amour érotique est conditionné par les clichés sentimentaux issus d'une littérature mal comprise et simplifiée à l'extrême, la famille se trouve au croisement de plusieurs discours qui en font un espace de déploiement d'une affectivité normée. Nous ne reviendrons pas de façon exhaustive sur ce que représente la famille au XIXe siècle, car cela dépasse de très loin notre propos, mais nous nous contenterons de rappeler ici qu'en tant qu'institution fondamentale de l'idéologie bourgeoise, elle cristallise nombre d'enjeux sociaux et culturels qui prennent la forme en son sein d'un ensemble de discours, de comportements, mais aussi et surtout d'affects. Nous reprenons là une idée développée par Claudie Bernard dans un article intitulé Balzac, famille de chair, famille d'esprit, famille de papier, et dans lequel elle explique que la famille bourgeoise au XIXe siècle intériorise en fait les valeurs familiales héritées de l'Ancien Régime. Donc d'après elle, les valeurs familiales héritées de l'Ancien Régime seraient transformées par la famille au XIXe siècle en affect, ce qui ferait de la famille ce qu'elle appelle un contrat sentimental, au sein duquel les émotions, dont le rôle et l'importance se sont largement accrues, correspondent en fait à des normes passées dans la vie affective de l'individu. Dès lors, admirer son père, chérir sa mère ou ses enfants, aimer ou détester ses frères, tout cela constitue autant de manifestations renouvelées d'idées autrefois transmises par le discours et par la codification raisonnée des comportements. Le sentimental venait par surcroît dans la famille d'Ancien Régime, il est désormais l'une des formes privilégiées des autres paramètres fonctionnels du schéma familial. Rien d'étonnant donc à ce que Flaubert, qui appréhende les affects selon cette angle historique, traite l'affectivité familiale comme il traite l'affectivité érotique, c'est-à-dire avec le recours d'une ironie qui en exhibe l'inauthenticité par la mise à distance de ses formules figées, de ses images stéréotypées et de ses manifestations corporelles codifiées. Si les affects familiaux prennent la forme de clichés langagiers et comportementaux, le rôle du texte littéraire est chez Flaubert de pointer du doigt ces clichés pour inviter le lecteur à en prendre conscience. Pourtant, on ne peut pas davantage réduire les occurrences de l'affectivité familiale à cette seule diction ironique qu'on ne peut y réduire les occurrences de l'affectivité érotique. Sans nier donc cette composante essentielle de la représentation des émotions qu'est l'ironie, nous voudrions donc, au cours de cette étude, interroger la question de l'authenticité des émotions familiales dans l'œuvre de Flaubert. Sont-elles intégralement présentées comme inauthentiques par l'usage littéraire des clichés langagiers et d'une iconographie stéréotypée qui les rattacherait immanquablement à la norme dont elles sont issues? Existe-t-il dans l'œuvre de Flaubert des formes stylistiques capables de faire échapper les affects familiaux à cette diction normée? Si oui, quelles sont ces formes? Quelle est leur proportion dans l'œuvre de Flaubert? Et cette proportion peut-elle, si tant est qu'on envisage l'œuvre comme un système reflétant une vision du monde, nous apprendre quelque chose sur la théorie flaubertienne des émotions? Peut-on par exemple en tirer des conclusions sur une éventuelle sociologie affective de Flaubert ou éventuellement une anthropologie affective de Flaubert? C'est ce que nous tâcherons de voir au cours de notre étude. Avant toute chose, cependant, il faudrait commencer par évoquer une objection que l'on pourrait apporter à l'ensemble de notre propos, celle selon laquelle dans l'œuvre de Flaubert, la famille est représentée sur le mode mineur et apparaît toujours dans une forme de secondarité par rapport aux autres enjeux de socialité, le couple par exemple, ou l'amitié. Cette objection nous semble partiellement justifiée. Certes, la relative absence de travaux sur la question familiale dans l'œuvre de Flaubert est sans doute en partie liée à une certaine inattention de la critique à cette thématique, qui reste dans l'ombre d'autres enjeux primordiaux. Mais la famille n'en reste pas moins chez Flaubert dans l'ombre de ces enjeux que j'ai évoqués, que sont le couple et l'amitié notamment. Et on ne pourra nier qu'elle occupe un espace romanesque réduit, par exemple, en comparaison avec l'œuvre d'un Zola ou d'un Balzac. Cette minoration apparente est d'autant plus étonnante que les romans modernes notamment, se veulent la représentation d'un univers bourgeois dont l'idéologie repose sur la structure familiale qui en incarne les valeurs. Enfin, c'est surprenant si l'on s'intéresse à la question affective, comme on l'a dit, hein, puisqu'il apparaît que les grands romans modernes insistent massivement sur la déconstruction du cliché sentimental. On s'attendrait donc, en toute logique, à ce que la famille, en tant qu'institution centrale de l'édifice bourgeois et en tant que structure où l'affect a un rôle normatif, soit massivement représentée et parachève le projet global de démystification du cliché. Pourtant, lorsque la famille est représentée chez Flaubert, et elle l'est indéniablement, comme l'ont montré certaines interventions de ce séminaire, elle l'est généralement selon les modalités d'une mise en scène théâtralisée qui incarne son fonctionnement normé. On pense par exemple à la famille Homais, qui est re représentée dans un fonctionnement à mi-chemin entre la vie professionnelle et la vie familiale dans la pharmacie, en travaillant de concert par exemple, ou à certaines scènes qu'on peut trouver chez les Arnoux dans l'éducation sentimentale autour de la cheminée. Elle l'est aussi parfois selon des enjeux qui lui sont spécifiques, notamment l'éducation dans Bouvard et Pécuchet, ou les questions plus générales de transmission des biens ou du nom. De façon générale, elle l'est rarement donc selon ces modalités affectives que l'on pourrait s'attendre à voir représentées. D'ailleurs, une rapide étude lexicologique montre que certains thèmes caractéristiques du vocabulaire de l'affectivité familiale, qu'on trouve dans la doxa bourgeoise et qu'on trouve aussi dans la correspondance de Flaubert, sont absents des œuvres ou n'apparaissent que rattachés à des situations d'ordre érotique ou parafamilial. Tendresse, par exemple, n'apparaît que 3 fois dans Madame Bovary pour désigner une tendresse familiale, des expériences familiales, et les 3 fois au sein d'acceptions négatives. Donc on a par exemple la tendresse de Madame Bovary mère pour son fils qui est éloigné par la présence de sa bru, ou la tendresse d'Emma qu'elle ne ressent pas faute d'avoir pu constituer un trousseau satisfaisant pour son bébé, et l'excès de tendresse qu'elle ressent à un moment pour sa fille et qui n'est pas crédible pour le reste des personnages. Certains types de relations familiales, notamment sur l'axe de la fraternité, sont en outre totalement absents des textes. Alors, il y a des fratries, bien sûr, chez Flaubert, hein, même si elles sont rares, mais elles ne sont pas thématisées sous l'angle affectif. En termes triviaux, on pourrait donc dire qu'il y a dans le corpus flaubertien une sorte de vide à la place de l'affectivité familiale, vide d'autant plus surprenant qu'on sait la place qu'ont les autres grands domaines affectifs, l'amour et l'amitié au premier chef, et leur traitement quasi systématique à l'aune de la norme qui les détermine. L'affectivité familiale aurait pu constituer une sorte de passage obligé de la représentation flaubertienne, justement parce qu'elle cristallise l'ensemble des enjeux qui semblent intéresser dans l'affectivité en général, mais elle est à peu près absente. Pour autant, et quoi qu'il soit quantitativement réduit, ce corpus existe et appelle donc une étude similaire à celle que l'on pourrait faire du domaine de l'affectivité érotique. En nous intéressant exclusivement par commodité aux affects familiaux sur l'axe de la filiation, puisque les affects familiaux sur l'axe de la fraternité n'existent pas et que les affects conjugaux relèvent d'un traitement à mi-chemin entre l'éros et la famille, donc sont un peu hors corpus en ce qui nous concerne, nous commencerons donc par présenter la manière dont Flaubert traite les affects familiaux comme des normes intériorisées, comme des clichés qui gangrènent l'espace intime et qui faussent les relations, en leur donnant une même formulation toujours recommencée. C'est ce qui m'amène à ma première partie que j'ai intitulée Les affects familiaux passés au crible de l'ironie démystifiante. Alors, les affects familiaux qui sont soumis à un traitement ironique par la plume de Flaubert sont sans grande surprise ceux qui apparaissent le plus intimement liés à la norme bourgeoise, c'est-à-dire ceux dont la formulation, le plus souvent au discours indirect libre pour faire entendre la voix du personnage contaminé par le cliché, résonne aux oreilles du lecteur comme la répétition d'une émotion déjà formulée ailleurs à l'identique. Ce sont en premier lieu les affects attendus, c'est-à-dire ceux que la bien-pensance bourgeoise s'attend à voir émerger dans toutes les familles, indépendamment des individus qui les composent et des contextes dans lesquels ils apparaissent. Autrement dit, ce sont des affects que la norme a proclamés naturels et qui deviennent par la force d'une rhétorique péremptoire tout en prônant l'élan primitif des affects obligatoires. Nous nous proposons, à titre d'exemple, de l'éventail des traitements qui peuvent leur être réservés, d'évoquer quelques-uns de ces affects typiques, de ce qu'on pourrait appeler des mythes, ces mythes affectifs, étroitement tissés dans la toile de la norme et indissociables d'elle. En tête de ces affects, il y a bien entendu l'affect naturel, je mets évidemment des guillemets autour de naturel par excellence, c'est-à-dire l'amour maternel. Une rapide étude de l'ensemble des romans flaubertiens fait émerger l'étonnant effacement de cette émotion qui est pourtant donnée comme première et spontanée par la doxa bourgeoise. Emma éprouve essentiellement des affects négatifs pour sa fille. Madame Moreau et Madame Bovary-mère, si elles aiment indéniablement leur fils, sont mises en scène davantage au sein de schémas qui insistent sur la manipulation et la possessivité qu'au sein de schémas qui insistent sur le sentiment maternel idéal. L'amour maternel, dans sa version absolue et enveloppante, est transféré dans un cœur simple, de la figure de la mère qu'est Madame Aubin à la figure de domestique nourrice qu'est Félicité. Et le couple hétérosexuel qui est attendu pour penser la famille nucléaire se transforme d'un Bouvard et Pécuchet en couple homosexuel masculin, donc sans mère au sens de génitrice qui aurait à la fois donné la vie et ressenti un sentiment maternel instinctif. En outre, dans le roman antique qu'est Salammbô, l'amour maternel est globalement absent du premier plan puisque Salammbô et Hannibal n'ont pas de mère connue. Il existe au second plan chez des femmes plus anonymes, mais il se subordonne dans la diégèse à d'autres intérêts, notamment des intérêts politiques et religieux. On pense par exemple à la gigantesque scène de sacrifice des enfants carthaginois, au sein de laquelle on voit apparaître les mères et leur affliction face au sacrifice qui se prépare, mais très rapidement cette affliction se transforme sous l'effet de l'emprise religieuse du moment, de la cérémonie. D'autre part, lorsqu'elles existent et sont données à voir éprouvant un tel amour, les mères sont représentées de façon à exhiber ce que leur affectivité peut avoir de culturellement construit. L'exemple type des exagérations ridicules du sentiment maternel est sans doute celui de Rosanette, dont l'annonce de la grossesse, qui est pourtant initialement assez violente puisqu'elle est en pleine dispute avec Frédéric, s'accompagne assez rapidement d'un bavardage superficiel. On trouve le terme bavarder dans le texte, hein, thématisé dans le texte sous la forme de discours indirects libres, ce qui laisse entrevoir ce que l'amour maternel instinctif, comme un mythe culturel, a d'intrinsèquement et d'immédiatement stéréotypé à travers la bouche de Rosanette. Plus tard dans le récit, après son accouchement, on retrouve d'ailleurs ce registre du cliché pour évoquer les préoccupations maternelles, cette fois-ci sous la forme d'un sommaire efficace, par exemple lorsque Rosanette et Frédéric sont en visite chez la nourrice de leur fils, et qu'on lit, je cite, « et les deux femmes débitaient pendant des heures d'assommantes niaiseries ». En somme, ce n'est peut-être qu'à la mort qu'au moment de la mort de l'enfant qu'émerge une forme plus authentiquement pathétique des affects maternels de Rosanette. Nous y reviendrons plus tard en deuxième partie. La décrédibilisation du cliché sentimental de l'amour maternel touche même sans doute la figure pourtant globalement positive de Madame Arnoux. Alors, sa tendresse, si elle est donnée pour incontestable et globalement nimbée d'une aura puissante dans le roman, nous semble pouvoir être lue de façon plus nuancée, ne serait-ce que parce qu'elle est polluée par certains éléments de dissonance qui invitent à en relativiser l'harmonie idyllique. Le plus évident de ces éléments de dissonance est le caractère non réciproque de cet amour maternel, et notamment ce que Flaubert appelle la désertion immense que Madame Arnoux ressent au moment du départ de ses enfants, donnée sur laquelle il insiste beaucoup dans les brouillons, et qui donc était sans doute importante dans la constitution du personnage. En outre, il s'agit de ne pas oublier que la figure de Madame Arnoux en mère de famille est essentiellement rattachée dans le roman au registre de la cristallisation amoureuse, puisque c'est à travers le regard de Frédéric qu'on l'aperçoit. Je cite le passage bien connu de l'épilogue. C'était Madame Arnoux telle que vous étiez, avec ses deux enfants, tendre, sérieuse, belle à éblouir et si bonne. Or, si une telle focalisation n'implique pas la décrédibilisation de son objet en tant que tel, voire lui donne une certaine forme force romanesque, elle le rattache indéniablement à un topos culturel érotique qui autorise, nous semble-t-il, à y voir une répétition qui s'ignore, et donc peut-être une sorte de cliché. L'amour de Madame Arnoux pour ses enfants a la forme du mythe, en témoigne sa thématisation picturalisée, on pense à toutes les scènes, tous les instantanés du type scène de genre qu'on peut trouver dans l'intérieur des Arnoux, et sa thématisation aussi en lien avec des topos romanesques, notamment celui de l'enfant malade, qu'on trouve dans d'autres textes antérieurs, en particulier le Lys dans la vallée auquel Flaubert s'était intéressé et qu'il ne voulait pas copier dans l'éducation sentimentale. Donc cet amour maternel de Madame Arnoux est certes crédible dans la diégèse, indéniablement, mais il nous apparaît aussi en partie comme une production de l'imaginaire érotique de Frédéric, imaginaire érotique qu'il partage avec d'autres héros fascinés par les figures maternelles. Et à ce titre, il incarne peut-être moins la thèse de l'immédiateté et de l'uniformité du sentiment d'amour maternel que sa version idéalisée, fantasmée par un personnage de jeune homme. Du côté des pères, l'amour parental est sans doute moins ancré dans l'imaginaire collectif comme procédant d'une donnée instinctive. D'ailleurs, la galerie des pères flaubertiens compte un certain nombre de pères irresponsables, qui vont du père noceur comme Monsieur Bovary père au père violent comme celui de Deslauriers, et de pères absents ou défaillants. Par exemple, le père de Frédéric qui n'apparaît pas du tout puisqu'il a pris un coup d'épée au moment où la mère de Frédéric était enceinte de lui. Pour autant, la doxa bourgeoise, idéalisant l'harmonie intrafamiliale qu'elle conçoit comme une image en miniature de l'harmonie sociétale, exalte aussi la figure du bon père de famille, dont l'amour pour ses enfants, résultat de circonstances et non pas de l'instinct, comme c'est le cas pour la mère, contribue à stabiliser l'édifice familial, et donc fait partie d'une norme. Si la Révolution, comme le disait Balzac, a amputé en même temps que le roi les pères de leur autorité irréfutable, elle n'a pour autant pas diminué leur place au sein du foyer. On pourrait dire, suivant le propos de Claudie Bernard, qu'elle a davantage reconfiguré le paramètre autoritaire qu'ils incarnaient en le faisant basculer du côté des affects. Le père bourgeois n'est plus le père aristocrate, mais c'est un père qui figure dans son nouvel éthos d'homme sensible son rôle de chef de famille, incarnation de l'ordre, de l'honorabilité des siens et de leur bonne éducation. Homais, entouré de sa famille florissante et hilare, est évidemment la figure canonique de ce type de père. De fait, si la figure du père qui gâte ses enfants est encore globalement frappée de stigmates, le paramètre sentimental primordialement dévolu à la mère se transfère en partie vers le père, au XIXe siècle, toujours selon Claudie Bernard. Chez Flaubert, cette sentimentalité acquise du pater familias, qui est conçue comme une norme et qui est historicisée, est mise en perspective dans le texte et se décline sous diverses formes complémentaires dans une scénographie attendue qui le typifie et qui exhibe son caractère construit. La principale forme de cette affectivité paternelle est celle du père tendre et amusant, dont l'image s'impose progressivement au XIXe siècle et dont on trouve deux avatars principaux dans l'œuvre de Flaubert, Charles bien sûr, et Arnoux. Alors dans le cas de Charles, il est surtout question d'une intervention des rôles parentaux traditionnels, puisque Charles assure le rôle enveloppant et ludique qui est normalement dévolu à la mère, faute de mère valable dans le cas d'Emma pour assurer ce rôle-là. Il me semble qu'on ne peut pas vraiment dire que la figure de Charles soit décrédibilisée, surtout dans les scènes de jeu qui sont des scènes généralement assez touchantes. Dans le cas d'Arnoux, en revanche, la tendresse paternelle nous semble basculer en partie du côté du cliché, parce qu'elle est thématisée doublement sous forme d'image d'épinal. On pense à l'image par exemple du père qui porte son fils sur son dos, je cite, en marchant à quatre pattes comme le Béarnais, et parce qu'elle est thématisée comme paramètre du portrait d'Arnoux, constitué par les on-dit de ses connaissances et dont Frédéric se fait l'écho en le défendant auprès de Madame Arnoux. Je cite de nouveau, Arnoux néanmoins possédait certaines qualités, il aimait ses enfants. C'est donc une caractéristique du portrait type du personnage et qui correspond peu ou prou à un cliché. Autre registre attendu de l'émotion parentale, l'inquiétude vis-à-vis des enfants. Dans les romans flaubertiens, cette inquiétude semble dévolue alternativement à l'un ou l'autre parent, mais jamais aux deux à la fois. Soit parce que le parent est veuf, comme c'est le cas de Madame Moreau ou du père Rouault, soit parce qu'au sein du couple, l'affect revient à l'un des parents, l'autre étant défaillant, comme c'est le cas dans le couple Bovary, par exemple. Un roman, cependant, met en scène un couple parental incarnant à deux cette inquiétude et en exhibe le caractère construit par une scène vaudevillesque qui la typifie et qui lui donne la forme du stéréotype. Ce roman, c'est la première éducation sentimentale, celle de 1845, texte dans lequel, pardon, l'ironie de Flaubert, qui est peut-être moins subtile que dans les textes postérieurs, fait le tableau féroce de l'inauthenticité des sentiments des époux Gosselin au moment du départ de leur fils Henri. La symphonie des lamentations parentales est donnée à voir sous forme de scène au sens théâtral du terme, En témoigne le recours à une typographie spécifique, puisqu'on bascule brusquement du dialogue narratif au dialogue théâtral. En témoignent les didascalies qui apparaissent dans le texte. Les répliques du père comme celles de la mère obéissent alors à un principe de répétition qui caractérise les clichés et se répondent en une sorte de chant à bébé qui rejoue les phrases cultes de l'indignation parentale. Donc on a par exemple « Il aura perdu la tête sans doute », auquel répond « C'est elle qui l'a lui a tourné, va ». Et plus loin, « Ça lui ira bien pour son avenir, ce pauvre garçon », auquel répond « Quelle coquette, perdre ainsi mon pauvre Henri ». Donc on a dans les deux cas la figure, enfin l'utilisation de l'adjectif « pauvre » qui montre que les répliques des deux parents se répondent l'une à l'autre. Elles sont en outre accompagnées de didascalies qui indiquent des émotions dont les variations et les jeux d'opposition et d'écho semblent orchestrés pour former un tableau de la parentalité inquiète. De soupirant, le père s'anime, tandis que la mère s'exclame et l'interrompt chaque fois qu'il veut parler pour marquer son indignation et sa colère. Son mari la rejoint ensuite dans cette colère, dès l'arrivée de Monsieur Renaud, le responsable de la pension, en y adjoignant l'air digne qui sied à son statut de chef de famille, je cite le texte, et dès lors, la colère-inquiétude se dédouble et prend des formes d'autant plus ridicules qu'elle recouvre des clichés de genre. Le père incarne l'inquiétude brutale, on trouve dans le texte l'adjectif brut, enfin l'adverbe, pardon, brutalement, une précipitation de son débit et l'allongement des tirades. Et en même temps, cette inquiétude brutale est aussi une inquiétude contrôlée, puisque c'est lui qui est chargé de calmer son épouse, qui elle incarne une inquiétude beaucoup moins contrôlée, puisqu'elle est montrée à plusieurs reprises pleurant. La comédie de l'inquiétude parentale culmine donc dans ce pic d'intensité mi-tonitruante, mi-gémissante, puis se dégonfle brutalement et perd toute sa crédibilité dès lors que le père Renaud explique son désarroi au couple des Gosselins. On a donc dans ce roman de jeunesse où l'ironie est plus directe, une nette représentation de ce que les affects parentaux ont de stéréotypé dans leur expression corporelle et langagière, et donc de profondément artificiel, puisqu'on sait que chez Flaubert, la forme et l'idée, en l'occurrence la forme et l'émotion, ne font qu'un. L'affectivité érotique, dont il est généralement admis qu'elle est traitée en grande partie sur le mode ironique, notamment grâce aux effets de discours indirects libres, semble donc complétée dans l'œuvre de Flaubert par l'affectivité familiale, elle aussi exhibée dans ce qu'elle a de sentimental, c'est-à-dire d'artificiellement construit. Là où l'affectivité érotique emprunte ses phrases et ses images toutes faites à la littérature romantique pour se dire et se penser, l'affectivité familiale emprunte au discours social, à la doxa, au mythe, qui cimente l'identité bourgeoise. Mais pour les deux formes, le mécanisme est similaire. L'affect est montré au sein de la fiction dans son inauthenticité par le biais d'une exhibition continue et répétée des dessous de l'idée reçue à travers laquelle il s'exprime. On retrouve, d'un mode d'affectivité à l'autre, les mêmes procédés dominants. L'usage ironique du discours indirect au libre, des exclamations lyriques théâtrales au discours direct, des images d'Épinal ridiculisées, l'exhibition d'une scénographie qui détruit l'illusion de naturel, le recours à des formules figées et répétitives, etc., etc. Pour autant, il n'est pas certain qu'on puisse limiter ces occurrences démystifiantes, à ces occurrences démystifiantes, pardon, l'ensemble de ce qui fait l'affectivité familiale chez Flaubert. Nous nous proposons donc de chercher à débusquer, si tant est qu'elles existent, des occurrences en marge de cette ironie, de poser la question donc au contact du texte, de la présence diffuse de formes d'affectivité authentiques, soit dans leur nature, soit dans leur mode d'expression. C'est ce qui m'amène à ma deuxième partie que j'ai intitulée sur le mode, sur le, sur la, à la forme interrogative. Une affectivité familiale authentique. Alors d'abord, il semble que Flaubert fasse un traitement particulier des affects qu'on pourrait appeler les affects familiaux marginaux. Il s'agit de ceux qui se déploient au contact de la norme, soit dans sa périphérie, soit en étant programmés par elle comme son envers. Leur diction est forcément moins stéréotypée que celle des affects dont j'ai parlé tout à l'heure, les affects attendus, puisqu'ils correspondent à des impensés de l'idéologie bourgeoise. On pourrait d'ailleurs peut-être faire l'hypothèse, c'est une hypothèse en travail, hein, que selon laquelle l'authenticité émotionnelle varierait en degré chez Flaubert proportionnellement à la distance de l'affect vis-à-vis de la norme. Je travaille encore sur cette hypothèse, mais je vous la soumets. À titre d'exemple, on pourrait évoquer le traitement subi par l'un des mythes de la famille bourgeoise, que j'ai évoqué plus haut, à savoir l'amour maternel, ou plus exactement son envers, le désamour maternel. La mauvaise mère est évidemment une figure monstrueuse pour la doxa bourgeoise qui considère l'amour maternel comme relevant de l'instinct, en témoignent les réactions très violente de la critique à la publication de Madame Bovary. Les affects qui sont associés à cette figure, donc la haine, la jalousie, l'indifférence, le dégoût, n'appartiennent que par la négative au registre de la norme, et donc n'ont pas de diction récurrente ou cliché à l'égard de laquelle Flaubert pourrait prendre ses distances. Il les représente donc de façon assez directe et assez explicite, évidemment neutralisée sur le plan moral, conformément à la doctrine de l'impersonnalité et de l'impartialité. On a ainsi dans Madame Bovary le tableau d'une affectivité maternelle qui est sauvée du ridicule et du cliché par sa marginalité. Les rapports d'Emma avec sa fille sont thématisés sur deux plans qui entrent en concurrence. Il y a d'une part les moments où elle joue à être une mère aimante, se dandine avec son bébé dans les bras sous les yeux ébahis de Léon, et se préfigure littéralement le dictionnaire des idées reçues en déclarant, je cite, adorer les enfants et en accompagnant ses caresses d'expansion lyrique. Et d'autre part, il y a les moments beaucoup plus nombreux où elle expérimente une affectivité maternelle, pour ainsi dire, négative. Sur le plan numérique, ce sont ces scènes de rejet de Berthe par Emma qui l'emportent sur les scènes où elle joue le rôle de la bonne mère. La première et la plus illustre de ces scènes est bien sûr la scène de l'accouchement, où Emma s'évanouit en apprenant qu'elle vient de mettre au monde une fille. Par la suite, d'autres scènes rejouent et déclinent le détournement initial de la tête d'Emma, en signe physiologique d'un affect qui la submerge en fait, et qui se donne à voir dans sa transparence parce qu'il reste informulé et informulable. Lorsqu'Emma rentre chez elle après son entretien raté avec Bournisien et qu'elle répète par 3 fois laisse-moi à sa fille avant de lui donner un coup de coude qui incarne à nouveau la transformation de l'étouffement que provoque l'affect ineffable en geste d'agressivité, on retrouve cette idée d'affect informulable en fait. Troisième exemple, situé après le départ de Rodolphe, alors qu'Emma est en pleine crise nerveuse, Charles lui amène sa fille à embrasser en espérant sans doute la ranimer par l'affection qu'il ne peut pas imaginer absente chez une mère, mais Emma de nouveau détourne la tête et s'évanouit encore. Je cite à nouveau le texte. Donc on trouve exactement les mêmes mots et le même motif qui se répètent. Cette même scène se répète d'ailleurs quasiment à l'identique lors de l'agonie d'Emma, cette fois-ci à sa demande, mais en engendrant toujours un détournement de la tête suivi d'un évanouissement, auquel répond dans cette dernière occasion le mouvement de recul de sa fille. Il nous semble donc que ce motif du détournement, qui se répète en étant le plus souvent suivi d'un blanc, soit le blanc du chapitre pour l'accouchement, soit le blanc du discours pour la scène de crise nerveuse d'Emma, où les personnages ne réagissent pas à son évanouissement et à son détournement, donc ce détournement suivi d'un blanc thématise en fait dans Madame Bovary l'ineffable de l'affect marginal qui est l'indifférence à l'enfant. Or, un tel affect n'est pas envisagé par l'idéologie culturelle bourgeoise et échappe donc dans sa représentation à la forme du cliché qui le décrédibiliserait en exhibant son caractère culturellement construit et inconsciemment répété. Ce type d'affect, authentique parce qu'il relève dans ce contexte spécifique d'un impensé de la norme, reste cependant assez rare dans l'œuvre de Flaubert. On n'en compte pas beaucoup, hors ceux des amours maternelles. Plus nombreux sont en revanche les détournements d'un autre ordre, analysés par la critique de façon récurrente, à savoir la représentation d'une affectivité familiale hors norme, parce que littéralement dans la diégèse hors de la famille telle qu'elle se définit traditionnellement. On pense notamment au cas de transfert d'affects familiaux à des schémas qui ne le sont pas, ou qui relèvent d'une conception élargie, voire subversive de la famille. Ainsi, dans l'éducation sentimentale, par exemple pour le couple de Frédéric et des Lauriers, l'amitié s'envisage à la fois selon la modalité du couple, d'une certaine manière, mais aussi selon les modalités d'une fraternité, dont on peut penser la fusion et à la fois la conflictualité selon le spectre émotionnel qu'on pourrait emprunter à la fratrie, si on suit en ceci les analyses très suggestives d'Alexandre de Vitry dans son livre sur la fraternité, où il évoque cette gamme des sentiments qui vont du ressentiment le plus amer à Abel et Caïn, à la Philadelphie totale et inclusive qu'on peut trouver dans la scène du collège, dans l'éducation sentimentale, par exemple, quand il est question des souvenirs de collège. De même, si Madame Aubin incarne une affectivité maternelle splinétique et froide, Félicité incarne une affectivité maternelle expansive et tendre, donc plus proche de ce qui est attendu par la doxa bourgeoise, mais pour des enfants qui ne sont pas les siens. Paul et Virginie, par exemple, puis ensuite Victor, son neveu, et enfin tout ce qu'elle inclut à cette sympathie élargie et maternelle, par exemple son perroquet Loulou. Nous ne reviendrons pas plus en détail sur ces questions des familles alternatives, puisqu'elles ont déjà été traitées en partie lors de ce séminaire, et nous allons en revenir donc aux affects proprement familiaux qui se déploient dans les limites de la famille biologique. On a vu qu'il existait certaines formes d'affects qui semblaient échapper à une diction ironique, supposée les déconstruire pour en montrer le caractère stéréotypé, et que ces affects étaient généralement empruntés par Flaubert à la marge de la norme. Dans le cadre de notre étude, il importe cependant de ne pas s'en tenir à évoquer l'affectivité authentique d'affects pris hors le carcan de la norme, puisqu'il existe peut-être aussi parmi les affects intégrés à la pensée normée des occurrences authentiques et déstéréotypées par l'écriture. C'est d'ailleurs l'aspect qui nous intéresse le plus, interroger comment Flaubert, conscientisant le caractère construit de l'affectivité familiale et l'exhibant par des biais stylistiques, s'emploie aussi en miroir à montrer qu'en proposant une diction nouvelle de cette même affectivité, il est possible de la faire échapper au cliché. La forme équivalant à l'émotion, une formalisation originale, permet d'accéder à une forme d'authenticité émotionnelle. En parcourant les textes, nous avons pu constater que les émotions parentales, par exemple, avaient beaucoup plus de force hors de leurs occurrences formulées ou théâtralisées. Nous avons évoqué plus haut le blanc typographique qui suit immédiatement l'évanouissement d'Emma, à l'issue de son accouchement et dans lequel on peut voir toute la profondeur insondable de son désespoir et de sa déception. Désespoir et déception qui auraient été sans doute décrédibilisés si elle avait ne serait-ce que prononcé quelques mots, puisqu'elle les aurait sans doute empruntés au registre sentimental de la déploration ou de l'apitoiement. Le motif de l'évanouissement, suivi d'un blanc typographique, se répète d'ailleurs au chapitre 9 de la troisième partie, au moment où le père Rouault apprend la mort de sa fille. Et une fois de plus, c'est le blanc qui se concentre l'intensité pathétique de la scène, mieux que ne l'aurait fait un discours stéréotypé plein de pathos larmoyant. Régulièrement, donc, c'est un silence qui relève stylistiquement de l'ellipse émotionnelle qui remplace les phrases de l'affectivité familiale pour en dévoiler la profondeur. Alors, ce silence peut prendre la forme du blanc, mais il ne la prend pas forcément, il peut être également thématisé par le texte. Nous pensons par exemple à l'épisode muet qui met en scène l'indicible émotion des mères concurrentes que sont Madame Aubin et Félicité, après la mort de Virginie, quand elles ouvrent l'armoire de la petite fille et qu'elles retrouvent son chapeau d'enfant mangé de mite. Je cite le texte. Leurs yeux se fixèrent l'une sur l'autre, s'emplirent de larmes. Enfin, la maîtresse ouvrit ses bras, la servante s'y jeta, et elles s'étreignirent, satisfaisant leur douleur dans un baiser qui les égalisait. Donc là, silence qui cristallise et qui condense l'émotion de la scène. Une scène analogue dans Salammbô montre un esclave d'Hamilcar désespéré par le sacrifice de son enfant. La profondeur de son affliction, de nouveau, n'apparaît pas vraiment dans les mots qu'il prononce. Puisqu'il prononce des mots, il prononce une exclamation formulée au discours direct, mon enfant, point d'exclamation, qui fait écho aux singeries d'Hamilcar, feignant lui-même le désespoir de perdre un fils. Donc en fait, les mots qui sont sincères dans le cas de l'esclave et instrumentalisés dans le cas d'Hamilcar appartiennent au même registre du cliché et donc trahissent sur le plan philosophique l'inauthenticité des affects, pour l'un comme pour l'autre. En revanche, au moment où l'esclave qui est empêché de parler n'a plus comme ressource de l'affect paternel qu'il ressent que le silence, son émotion emplit la page. Je cite, l'esclave qui n'avait pas mangé depuis longtemps se rua dessus, ses larmes tombaient dans les plats. Voilà, et Flaubert s'en tient là. Donc là, dans le silence, de nouveau, on a tout l'affect paternel qui ressort. En fait, on est ici assez proche d'une représentation de ce que Flaubert appelle l'indisable et qui prend, selon Philippe Dufour, dans la forme d'un Flaubert ou l'approche du silence, donc la forme du silence ou de l'inintelligible, qui offre tous les deux un espace de déploiement privilégié à l'affect informulé. Autre modalité de représentation originale de l'affect, la régression au corps. Contrairement au postulat célèbre de Brunetière selon lequel le régime de la sensation a éludé chez Flaubert le régime du sentiment, il nous semble qu'il a en fait substitué au sentiment inauthentique une forme d'émotion sensible. Autrement dit, le psychologique ne disparaîtrait pas totalement chez Flaubert, mais viendrait se réfugier dans le physiologique en créant une sorte de troisième voie, peut-être celle de l'émotion. Philippe Dufour a analysé judicieusement ce qu'il appelle les impressions affectives des corps flaubertiens, comme régression de l'affect intellectuel, c'est-à-dire le sentiment avec tout ce qu'il peut avoir de cliché, à l'affect sensible, spontané et indicible qu'on pourrait appeler émotion. Dans son sillage, on pourra faire un relevé des occurrences où les émotions familiales trouvent à se dire dans ce qu'on appellera le sensible, c'est-à-dire dans une sensation qui est déjà aussi émotion et qui tire sa force et sa crédibilité de ce qu'elle n'est pas sentiment, c'est-à-dire pas formule et donc pas cliché. La lettre émue et aimante du père Rouault à sa fille, par exemple, dans Madame Bovary, tire sa puissance suggestive non des mots qui y sont inscrits ou des états d'âme psychologiques qui y sont exprimés, mais de sa matérialité même. Emma est touchée en fait par le gros papier qui est utilisé, par les fautes d'orthographe enlacées les unes aux autres qu'elle remarque, par la poussière grise qui tombe de la lettre et qui témoigne du séchage de l'encre aux cendres, et par l'intervalle entre les lignes qui témoigne d'une pause du père Rouault pendant la rédaction de la lettre. C'est par son corps qu'elle expérimente la nostalgie de son enfance et l'affection qu'elle a pour son père. La scène d'ailleurs, qui est construite en deux temps, met bien en opposition l'émotion de l'expérience sensible d'une part, l'expérience sensible de la lettre, et le sentiment frelaté de la rêverie stéréotypée dans un deuxième temps avec ses phrases clichés. Je cite, Elle se rappela des soirs d'été tout pleins de soleil, les poulains hennissaient quand on passait, et galopaient, galopaient, etc., etc. Puis ensuite, elle développe avec une abondance de phrases exclamatives le désespoir qu'elle a d'avoir vécu une vie décevante. Donc on retombe très vite dans le registre du cliché après avoir passé par un stade plus authentique de l'ordre du sensible. Dans l'éducation sentimentale, la scène de la mort de l'enfant mobilise également cette ressource du sensible pour exprimer l'affliction désespérée de Rosanette. La scène est construite en deux temps. Alors on a d'abord, dans un premier temps, le corps déchaîné et pathétique de Rosanette qui exprime son émotion par une scénographie assez codifiée, celle des cris, des petits noms, des sanglots et des cheveux arrachés, qui ressemble en fait assez à une scène traditionnelle d'affliction désespérée. Mais cette scénographie, toute codifiée qu'elle puisse être, demeure du côté, pardon, de l'indicible, Oui, de l'indicible et de l'inintelligible, parce qu'elle est dans la corporéité pure. Bernadette ne prononce pas de mots qui soient retranscrits dans le texte, et en fait, toute son émotion passe par son corps. Donc, elle ne peut pas être totalement rattachée au cliché. D'autre part, dans la deuxième partie de la scène, l'émotion brute de la mère éplorée qu'est Rosanette émane du silence cru du corps qui perçoit l'espace autour de lui. Je cite le passage. Puis une torpeur la gagna, et tout devint tranquille dans l'appartement. Les meubles étaient renversés, deux ou trois serviettes traînées, 6 heures sonnèrent, la veilleuse s'éteignit. Donc là, on voit que c'est dans une esthétique du dépouillement et de la sécheresse que Flaubert trouve la formule de l'affection déstéréotypée. Il serait à ce titre intéressant d'ailleurs peut-être d'étudier les scénarios et l'alternance des formules lapidaires dans les scénarios pour dire l'émotion brute et des formules déjà rédigées pour dire sa version stéréotypée. Mais là, de nouveau, c'est une hypothèse, je n'ai pas encore bien regardé dans les scénarios, donc je m'y intéresserai pour mieux comprendre peut-être ce qui, déjà dans l'origine du texte, était pensé pour relever de l'affect normé et ce pourquoi Flaubert cherchait déjà une forme nouvelle capable de renouveler l'affect. D'autres modalités esthétiques, plus épisodiques, produisent des effets de désartificialisation similaires. Je pense notamment à la forme de l'excès hypertrophique de l'affect, celle de la monstruosité hors norme qu'on peut trouver dans Madame Bovary avec l'excès de tendresse que je citais au début de ma communication, ou celle qu'on trouve dans Salammbô lorsqu'il est question de la tendresse terrible d'Hamilcar. Aussi, mais aussi, pourquoi pas, le désespoir de Rosanette que nous venons d'évoquer qui relève de l'excès. Donc toutes ces formes-là sont sans doute sauvées du cliché et de l'inauthenticité qui est attachée globalement chez Flaubert aux affects par leur caractéristique principale qui est l'excès et qui les distingue des émotions bourgeoises plutôt médiocres, le bourgeois étant du côté de la modération et de l'entre-deux, du juste milieu. Deuxième forme que peut prendre l'affect désartificialisé, la forme de l'incongru, où les mots prononcés échapperaient au régime du cliché en ce qu'ils seraient empruntés à un discours en décalage avec la situation vécue, donc en décalage avec ce que la norme attend en termes de discours. On pense notamment au « Nous le conserverons, n'est-ce pas » de Rosanette au moment où elle perd son fils, qui fait écho au discours insensible et complètement déconnecté de la situation de pèlerin, qui font ressortir tous les deux par leur incongruité le silence désespéré qui suit de Rosanette, et donc son émotion maternelle. Troisième forme de désartificialisation, la forme de l'ironie redoublée à travers par exemple le motif du quiproquo. Alors dans la même scène de l'éducation sentimentale où il est question de la mort de l'enfant, Frédéric pleure, lui, la ruine d'Arnoux. Il s'inquiète pour son amante. Rosanette à ce moment-là vient vers lui avec les mots d'une affectivité assez stéréotypée. Elle lui dit « Ah, tu pleures comme moi, tu as du chagrin ». Et cette formule-là, qui est assez stéréotypée, désamorce le crédit qu'on porte à son chagrin de façon momentanée. Mais la réponse de Frédéric, qui est à la fois sincère parce qu'il répond oui, et de fait il a du chagrin, et en décalage avec la question puisque son chagrin n'est absolument pas lié à la perte de son fils, réactive, par contraste, la crudité du sentiment maternel de Rosanette. C'est en quelque sorte comme si l'ironie du dialogue de sourds donnait accès au soubassement brut de l'émotion maternelle de Rosanette. Et à celle de Frédéric également, mais qui ne relève pas de l'affectivité familiale. Flaubert fait donc en quelque sorte l'expérience dans la fiction d'une diction renouvelée de l'émotion familiale, capable de la rendre authentique et pleine. L'ayant vraisemblablement appréhendée comme notion sociologique, il en montre les accointances avec le cliché, mais aussi les formes qui échappent à ce cliché. À partir de ce constat, il nous semble judicieux d'envisager la possibilité qu'il l'ait aussi appréhendée comme une notion anthropologique, puisque une fois décrédibilisées les formes affectives stéréotypées par le discours social, il demeure vraisemblablement des émotions immédiates, sensorielles et silencieuses, dont on peut se demander si elles relèvent d'un mode d'affectivité pré-social. Nous nous proposerons donc, dans cette troisième et dernière partie, d'explorer ce que nos conclusions stylistiques peuvent nous apprendre sur une éventuelle socio-anthropologie des passions. On arrive donc à ma troisième partie que j'ai intitulée « À la recherche d'émotions familiales primitives », en mettant primitive en italique, comme le ferait peut-être Flaubert pour mettre à distance le terme employé. Si l'on s'intéresse uniquement aux œuvres dites modernes, il semble difficile de trouver un type d'affect familial qui échapperait dans la majorité de ces occurrences à l'écriture du cliché. On l'a vu, lorsque les affects échappent à cette diction ironique, ils n'appartiennent pas à un mode de s'émouvoir spécifique, mais surnagent dans la mer des clichés affectifs grâce à une réhabilitation permise par cette nouvelle diction qu'est le discours esthétique, par le dépouillement, par l'excès, par le motif du silence, etc., etc. Difficile donc de postuler qu'il existe une quelconque anthropologie des passions à l'œuvre derrière le discours a priori tout sociologique de Flaubert. Du côté des romans dits antiques, qui thématisent un espace-temps reculé qu'on pourrait penser propice au déploiement éventuel d'une vision fantasmatique de la primitivité affective, il est difficile aussi de trouver satisfaction pour la question de l'anthropologie. D'abord, il semble ardu de mener une étude de la question sur un roman comme Salammbô, où l'affectivité familiale prend si peu de place, même si ce n'est pas le cas de la thématique familiale, nous y reviendrons. Et en fait, on a un seul personnage qui est associé à des affects d'ordre familiaux dans le roman, c'est Hamilcar. Et dans l'ensemble du roman, ce personnage est une seule fois montré comme étant véritablement affecté par son fils, au moment où il vient de le faire échapper au sacrifice qui se prépare à Carthage et qu'il se retrouve seul avec lui dans les souterrains de son palais. Cet épisode, court mais capital, thématise l'affect paternel d'Hamilcar selon trois modalités. La frénésie, on trouve dans le texte, il se soulagea, il se jeta sur son fils, il l'étreignit contre sa poitrine, le couvrait de baisers, ce qui d'ailleurs effraie l'enfant. Donc sa frénésie, première caractéristique. Deuxième caractéristique, sa fondamentale informulation, puisque l'affect d'Hamilcar demeure indicible, il ne prend pas de forme verbale, il s'exprime de façon exclusivement corporelle. Et troisième caractéristique, son caractère paradoxal, puisque c'est une tendresse terrible dont il est question, on est presque de l'ordre de l'oxymore, et une tendresse terrible qui le fait rire et pleurer à la fois. Donc affect globalement paradoxal. En somme, seul dans les souterrains de son palais, de nuit, entouré d'une présence mystique, Hamilcar se laisse aller à un débordement passionnel qui n'a rien de cliché, justement parce qu'il est donné à voir sur le mode de l'excès et du paradoxe. Le soulagement du suffète, une fois le problème résolu, n'est pas un soulagement bourgeois, pas un soulagement médiocre. Ces caractéristiques, le paradoxe, la corporéité notamment, correspondent globalement à la conception contemporaine des affects, notamment en ce qui concerne les paramètres du paradoxe et du corporel. Je pense notamment au texte de Georges Didier Huberman dans Faits d'affect, où il évoque les différentes philosophies de l'affectivité moderne qui insistent globalement beaucoup sur ces caractéristiques-là. On pourrait donc être tenté d'y voir la preuve que Flaubert avait identifié et thématisé ce qui est intrinsèquement à l'affectivité familiale, quelle est sa version naturelle, une fois débarrassé de ce qui tend à la nécroser dans le monde moderne, à savoir essentiellement le langage du cliché et de la norme. Or, une telle lecture, en plus d'être complètement anachronique, méconnaît doublement la composante générique qui préside à la thématisation des affects familiaux dans Salammbô et la manière dont est conçue la famille dans l'ensemble du roman. Salammbô est un texte épique, donc les personnages y sont davantage des forces que des êtres psychologisés. Il n'y a vraiment rien d'étonnant donc à ce que leurs émotions apparaissent sur le mode de l'excès et de l'informulable. Et même si ce mode ressemble à celui qui véhicule l'authenticité affective dans certains passages des romans modernes, on ne peut sans doute pas y voir pour autant une réalité anthropologiquement première, simplement parce que le cadre en question est un cadre oriental et antique. En outre, dans Salammbô, la famille en général n'est pas envisagée sur un mode différent de celui des romans modernes. Carthage est une cité-État dont l'organisation sociale repose sur l'institution familiale. Les suffètes sont pris aux grandes familles de la cité, les mariages se font entre ces grandes familles, et le pouvoir économique qui se transmet dans les familles des riches se transmet par l'héritage familial. Si la société antique n'est pas la société bourgeoise moderne, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une société, avec donc ses codes culturels, ses coutumes et ses propres clichés. D'ailleurs, à l'exception du cas notable d'Hamilcar, qui est envisagé sur le mode épique, les affects familiaux qui apparaissent dans le roman sont traités sur le mode du ressentir typifié, tant du côté des Carthaginois que du côté des barbares. On trouve par exemple un certain nombre de passages où il est question des larmes des mères, soit à cause du sacrifice généralisé qui se prépare à Carthage, soit à cause des nombreux départs en guerre du côté des barbares. Et ces larmes des mères se présentent dans le texte sous la forme d'une iconographie répétitive qui préside à la mise en scène d'une affliction et tend à les rattacher au régime, à rattacher pardon, ces occurrences au régime du cliché. Même si le cliché, dans Salammbô, prend certes des formes moins langagières et moins ironiques que dans les romans modernes. Postuler que le cadre antique et oriental du roman implique une conception primitive de la famille et de ses affects reviendrait donc à éluder doublement son caractère profondément social et la composante stylistique et épique, en l'occurrence, qui préside à son écriture. Il en est d'ailleurs de même pour Hérodias. Si le conte met au centre de sa structure narrative la famille, comme c'est le cas d'ailleurs pour les deux autres contes de la somme des trois contes, les enjeux affectifs qu'elle implique sont tellement confondus avec des enjeux d'autre nature, en particulier érotiques à travers le motif de l'inceste et politique, que l'on ne peut pas dire qu'il y ait réellement une thématisation de l'affectivité familiale en tant que telle dans Hérodias, ni que cette thématisation renvoie à une présocialité anthropologiquement première et par là authentique. Nous nous arrêterons donc en guise de conclusion sur le constat suivant. L'étude comparée des textes modernes et antiques au plan stylistique permet de replacer la thématisation de l'affectivité familiale dans le cadre d'une théorie historique qui prend le contre-pied de la vulgate bourgeoise historique, selon laquelle les émotions familiales au présent reproduiraient une donnée primitive incontestable. À la lecture de Salammbô et d'Hérodias, on comprend rapidement que les émotions sont de toute façon pensées chez Flaubert relativement à un mode de société. Les émotions familiales en particulier sont données à voir comme artificialisées ou en voie d'artificialisation dès l'Antiquité. Si version originelle et naturelle elles ont donc, cette version n'existe déjà plus dès lors qu'il y a organisation sociale, et donc n'apparaît pas dans les romans de Flaubert qui représentent toujours des sociétés. Du côté des romans modernes, la minoration de la thématique, de l'affectivité familiale, l'usage massif de l'ironie pour en exhiber la normalisation, et la recherche manifeste de formes nouvelles pour arracher l'émotion à la norme, semblent indiquer que l'affectivité familiale au présent est indissociable pour Flaubert d'un discours stéréotypé, qui, croyant emprunter à un état de fait naturel, emprunte en fait à une vision largement stéréotypée et fantasmée des premiers temps. Dans les deux cas, c'est l'écriture, semble-t-il, qui amène l'authenticité et qui vient équilibrer les conséquences du poids de la norme et du langage commun. Les affects familiaux ne semblent pas avoir de version primitive, ils ne sont crédibles et éventuellement authentiques que lorsqu'ils sont traités stylistiquement sur un mode qui leur permet d'échapper aux clichés. Je vous remercie pour votre attention.